Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
On sait tous qu'en ce moment, on traverse une période économique qui n'est pas facile, mais justement, couser ou créer. Et je dis souvent, créer, c'est vivre deux fois. Bah, si ta vie, elle est moyenne, et ben, va créer, quoi. Va créer un truc, offre-le, fais, tu vois, c'est... Le but, c'est quoi ? C'est de faire vibrer, de faire rêver les gens, de leur montrer qu'ils sont capables de réussir et de refaire vivre le fait main. Et, ouais, et de partager, qu'il y ait une transmission entre les générations. Et on est là, nous, pour ça, pour aider à ça, en tout cas. Donc, ouais, je trouve qu'on a un métier formidable.
Couturière, couturier, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Dans Blabla Couture, j'interview des créatrices et créateurs de contenu qui parlent de couture pour comprendre leurs inspirations, leurs stratégies et ce qui les pousse à créer de nouveaux projets autour de la couture. Dans cet épisode, je reçois Virginie, alias Vini DIY, que vous connaissez probablement. C'est l'une des créatrices de contenu les plus populaires sur l'internet francophone. Avec elle, nous allons retracer son parcours. On va évidemment longuement discuter de son best-seller, le sac Georges. Et puis, je ne vous en dis pas plus, hein, parce que le but, c'est quand même que vous écoutiez l'épisode jusqu'au bout. Bonne écoute. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, Vini ? Pour les gens qui, éventuellement, ne te connaîtraient pas encore.
Ah oui, bah, y en a plein qui ne me connaissent pas. Donc...
Moins que tu penses, je pense, mais allons-y.
Donc, je suis Vini, donc sur les réseaux Vini DIY. Donc, en fait, je suis inspiratrice couture, on va dire ça comme ça. Je crée des patrons, des tutoriels. Certains sont gratuits, certains sont payants, pour rendre la couture accessible à tous. J'essaie vraiment de tout miser sur la pédagogie pour que les gens réussissent, parce que mon objectif, c'est que les gens réussissent et voient que la couture, c'est pas si sorcier que ça, en fait. J'ai 46 ans, j'ai 4 enfants, famille recomposée. C'est mon métier aujourd'hui pleinement, mais avant, je cumulais plusieurs métiers. Enfin, je cumulais ça avec mon autre métier. Et donc, j'en vis depuis, on va dire, 5 ans. Voilà, j'ai commencé à coudre il y a 10 ans, au moment de ma grossesse, où j'ai voulu réaliser des choses pour accompagner mon enfant à sa naissance. J'ai alors consulté des tutoriels, comme tout le monde, parce que j'avais les bases de couture, mais je savais faire un ourlet, mais je ne savais pas créer quelque chose. Et en consultant les tutoriels, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est compliqué ou quelquefois mal expliqué, où il y a des mots que je ne comprends pas. Et je me suis dit, mais pourquoi tu n'expliquerais pas avec tes mots à toi, aux gens qui, comme moi, n'y connaissent rien ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la couture, si on fait des petites étapes, qu'on séquence bien et qu'on utilise des mots simples, c'est accessible à tous. Et pendant ma grossesse, j'ai commencé à créer mes premiers tutos, qui étaient au départ des tutos PDF que je mettais sur un blog. Et pendant 3 ans, j'ai vraiment fait que du gratuit, plein de choses différentes, du plus simple au plus compliqué en fonction des progrès que je faisais moi-même. Et puis petit à petit, c'est devenu vraiment une passion, cette envie de transmettre. Et la chaîne YouTube est arrivée ensuite. où là, j'ai dû commencer à filmer d'abord que mes mains, parce qu'il était hors de question que je montre mon visage. J'étais complètement terrorisée. Donc, j'ai commencé à faire des tutos YouTube parce que le PDF, c'est bien, mais on ne peut pas tout expliquer par PDF. Les images, c'est bien, mais quelquefois, il faut montrer le geste en temps réel. Donc voilà, d'un blog, je suis passée à YouTube. En même temps, j'ai développé Facebook, surtout, à l'époque, parce que il y a 10 ans, j'étais plus Facebook qu'Instagram. Et puis, je suis venue sur Instagram un petit peu après, puis sur Pinterest. Et puis voilà, j'ai progressé, j'ai suivi un chemin que je n'avais pas prévu en me laissant guider par mes intuitions, par mes envies. Voilà.
Quel est ton premier souvenir de couture de toute ta vie?
De toute ma vie, c'est un. Alors, j'étais toute petite, je devais avoir 5-6 ans. J'avais récupéré une fermeture éclair d'un pantalon de mon papa. Et avec deux autres morceaux de tissu, j'avais fabriqué un petit porte-monnaie. J'avais cousu à la main. C'est quelque chose que j'ai toujours, que j'ai conservé. Je vous montrerai peut-être un jour en photo, mais c'est très précieux pour moi. Je me souvenais même plus que je l'avais fait, en fait. Je suis tombée dessus en fouillant dans la maison de mon papa. Et je revois complètement en fait que j'avais voulu lui fabriquer un porte-monnaie. Alors il était bleu turquoise avec des petites paillettes, donc je pense qu'il s'en est pas beaucoup servi, mais il a toujours gardé. Et il était très mal fait, mais voilà, c'est mon premier souvenir. Et l'autre souvenir qui est hyper important, c'était ma grand-mère au bout d'un long couloir avec cette machine à pédales ancienne. Et je la voyais coudre, je ne sais pas quel âge j'avais, j'ai du mal à... Mais je la voyais coudre et j'étais émerveillée. Elle piquait avec une machine, une ancienne machine, donc les machines où il y avait l'armature en fer, le dessus en bois, et je la voyais faire. Pardon. Et je m'approchais d'elle parce que j'avais l'espoir, et c'est ce qu'elle faisait de temps en temps, elle me laissait mettre mon pied sur la pédale. Et j'accompagnais ce petit mouvement et j'étais tellement fière et je la regardais coudre et je pouvais mettre mon pied sur la pédale. Et ça, c'est vraiment l'image. Je la revois encore au bout de ce couloir de dos avec cette machine magique à l'époque qui m'émerveillait complètement, quoi. Donc voilà mes deux gros souvenirs, mes premiers souvenirs de couture, on va dire.
Et du coup, à partir de quel moment, toi, tu as eu envie de t'y mettre? Parce que à quel moment tu passes de cette envie de voir les autres faire à toi faire toi-même les choses en couture?
Alors, très vite, petite, je dirais vers 7 ans, elle a commencé à m'apprendre d'abord à coudre à la main, mais des choses pratiques comme à l'époque, c'est-à-dire un bouton, un ourlet, voilà, des petites choses comme ça.
À raccommoder des trucs?
Oui, raccommoder les chaussettes avec l'œuf.
Oh là là.
Donc, je dois dire que ça m'intéressait, mais moyennement. Mais en tout cas, j'ai eu la chance de faire ça avec elle. Et à l'époque, elle m'a aussi appris le crochet et le tricot. Et puis, elle est décédée. Et je dirais que j'ai toujours été après créative. Mais ce n'était pas spécialement autour de la couture. Il m'arrivait de travailler... de mettre aussi, de customiser des t-shirts, mais je faisais aussi de temps en temps des écharpes ou je fabriquais des paniers avec mon papa. Il m'avait appris à travailler, à faire les paniers en fait.
De la vannerie, tu veux dire, avec de l'osier et tout?
Voilà, on divisait en quatre les tiges. Il avait fabriqué un petit séparateur pour diviser les tiges qu'on avait dans le jardin. On les divisait en quatre. Il m'a appris à mettre en forme les arceaux, à les faire sécher une nuit. Et c'est vrai que j'ai beaucoup fait de vannerie avec papa. Et ça me passionnait. C'était vraiment fantastique de partir d'une matière qui était dans le jardin, qui poussait dans le jardin, et d'arriver à un résultat aussi beau, parce que je trouvais que c'était magnifique, et au coin du feu, puisqu'on habitait à la campagne. Donc, j'ai passé de merveilleux moments à faire ça, en fait. Mais j'ai toujours eu un petit quelque chose créatif dans ma vie à côté de moi, en fait. Ça a été... il y a eu le sport, mais il y avait quand même tout le temps une période... Enfin, je ne pouvais pas ne rien faire de mes mains. il fallait que je fasse quelque chose ou que j'invente un truc ou que voilà.
Et est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui tu t'appelles Vini DIY et pas Vini Couture ?
Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui me tient à cœur, c'est le fait main. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis très couture, mais j'espère un jour, quand je me sentirai peut-être plus légitime, aborder d'autres sujets, peut-être faire de la vannerie. Je m'autorise également à faire des tutos depuis peu de temps, là, à faire des tutos crochet et tricot. Donc en fait, je voulais pas, quand j'ai choisi ce nom, en fait, je voulais pas du tout me fermer de porte. Et même si aujourd'hui, c'est essentiellement couture, sur ma chaîne YouTube notamment, je m'autorise à explorer d'autres choses. Et puis j'ai envie de ne pas avoir de limites. Voilà. Donc, ce nom, il est venu un jour dans la voiture. J'étais devant un magasin de tissus avec mon mari et je cherchais un nom parce qu'il fallait un nom. Mais donc, j'avais Vini. Et il m'a dit, mais je sais. Et il a écrit et il m'a montré le papier que j'ai toujours gardé. Et c'est lui qui a mis DIY à côté, donc do it yourself. Et je me suis dit, bah oui, c'est évident. À la fois, c'était évident par l'aspect, je dirais, de l'écriture, parce qu'il y avait le Y à la fin et que ça, c'était joli. Et à la fois, parce qu'en fait, j'ai toujours fait des choses fait main depuis toute petite et que je ne veux rien m'interdire pour plus tard. Voilà.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Est-ce que aujourd'hui la couture, c'est ton métier ?
Alors la couture aujourd'hui, depuis à peu près 5 ans, c'est mon métier. C'est ma passion et c'est mon métier. Je vis de la vente de mes patrons payants de couture. J'ai aussi un blog et une chaîne YouTube où c'est clair que je suis un petit peu rémunérée en fonction du nombre de vues. Donc, ça m'apporte aussi un petit complément. Mais l'essentiel de mes revenus, c'est la vente de mes patrons payants. Voilà. Et je fais des salons, je fais des ateliers. Mais toutes ces choses-là, je les fais de façon bénévole. Donc, mon revenu aujourd'hui, c'est vraiment la vente de patrons couture.
Et du coup, ça fait depuis 5 ans que tu en vis ou c'est un peu... Parce que non, il y a 5 ans, tu as lancé la chaîne et le blog.
En fait...
C'est assez récent, ce nouveau métier.
Ce nouveau métier, j'ai commencé en étant auto-entrepreneur, il y a 5 ans. Okay. Avant, en fait, j'en vivais pas. Je travaillais, j'aidais mon mari sur les magasins de tissus qu'on a à Bordeaux et je faisais ça en plus. Et puis surtout, jamais ça m'était venu à l'idée de vendre à un patron puisque j'ai pas de formation de couture, j'ai aucun diplôme. Et puis un jour, en faisant le sac Georges, je me suis dit, Quel travail c'est ? J'en étais à 40 pages de tutoriel, peut-être un petit peu moins, mais je travaillais des heures et des heures. Et j'ai dit à Philippe, écoute, pour une fois, est-ce que j'essaierais pas de le mettre payant ? Parce que ça a été énormément de travail. Et c'est vrai que je suis généreuse, mais si je peux juste financer mes déplacements sur certains salons ou gagner un tout petit peu grâce à un patron. Je dis, puis ce sera le test de voir si je suis crédible ou pas, si j'ai une crédibilité et si les gens... Et donc, voilà, j'ai lancé, en fait, Georges, un patron payant à 3 euros hein, à l'époque parce que si je pensais pas pouvoir le mettre plus cher. Donc, je l'ai mis à 3 euros. Et alors, ça a marché, mais pas tout de suite énormément, mais petit à petit, ça a pris une envergure que j'imaginais pas. Et du coup, j'ai créé mon auto-entreprise. J'ai continué de gérer, parce qu'à l'époque, j'avais un site de vente en ligne qui s'appelait immercerie.com. Et ça, je n'y pense pas tout le temps, mais j'ai commencé à vouloir avoir une activité à côté de mon mari pour être autonome. Et donc, il y a 10 ans, j'ai commencé avec immercerie.com. Et donc, à côté, je faisais mes petits tutos. Et j'en avais marre d'envoyer des colis à des gens, je ne transmettais pas de passion, ça a été compliqué. Et donc, la sortie du sac Georges, ça a été la raison et le moment où je me suis remis en question. Je me suis dit maintenant, c'est soit je prends une direction, soit l'autre, parce que je n'arrivais pas à tout faire. Et donc, Philippe m'a dit, mais vas-y, fonce, arrête le site de vente en ligne et essaye le blog et ta chaîne YouTube et tes patrons. Et puis, on verra bien ce qui se passe d'ici un an. Mais il m'a dit, je te suis à 100%, je t'accompagne, on y va. Et donc, j'ai arrêté immercerie.com. Et du coup, toute ma créativité a pu se libérer. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup moins de monde que maintenant sur le marché des patrons, hein, un PDF. Et à l'époque, j'étais sur Makeurist aussi, qui m'a donné un coup de main en termes de visibilité. Et j'ai été contactée pour faire Maker Faire, un événement géant où il y avait un atelier de couture géant. Et ça a été cette addition de petites choses qui a fait que je suis passée de l'anonymat à quelqu'un d'un peu plus connu et crédible. Et que j'ai pu petit à petit vivre de cette passion-là. Au départ de ma vie, je suis responsable régionale dans des enseignes de prêt-à-porter comme Cache-Cache, Jennifer, et je fais beaucoup de routes et je n'ai plus le temps de vivre, et voilà. Et un jour, je rencontre Philippe, qui, lui, est responsable régional, mais chez Mondial Tissu, où je viens d'être embauchée. Et par la force des choses, il se retrouve célibataire, et donc, de là, notre union est née, et il ouvre des magasins de tissus à Bordeaux, et il arrête Mondial Tissu. Je le rejoins dans l'aventure de ces magasins, mais je ne pouvais pas déstabiliser l'équipe en place ou ne même prendre la place de quelqu'un. Donc, j'ai créé à ce moment-là mon site de vente en ligne qui était raccroché au magasin. Mm-hmm. Mais je ne m'éclatais pas, quoi. Donc, et ça, c'était il y a 10 ans. Et donc, ma soupape et mon bien-être, c'était de coudre pour expliquer sur le blog et les tutos. Mais jamais...
De partager tes astuces et ta manière de faire.
Voilà, mais jamais je m'étais dit que j'allais en vivre un jour ou que même j'allais intéresser des gens autant que ça. Enfin, c'était vraiment... je faisais ça pour mon bien à moi. Hein, c'était vraiment pour moi que je le faisais. Et je le partageais parce que je me disais, attends, mais j'y suis arrivée, c'est incroyable, il faut que les gens sachent qu'on peut tous y arriver. Voilà, c'est... Et aujourd'hui, je vis un rêve éveillé depuis tout ce temps-là. Parce qu'en fait, comme je n'avais pas tracé mon chemin et que je n'avais pas dit « je veux ça » et que tout s'est fait un petit peu comme ça, et chaque jour, c'est un émerveillement. Et je remercie de tout ce qui m'arrive. En fait, chaque jour, je suis reconnaissante.
Est-ce qu'on peut parler du sac Georges, justement ? Je ne savais pas que c'était ton premier succès, mais le sac Georges... C'est l'équivalent du sac Kelly chez Hermès, c'est l'équivalent du sac... C'est-à-dire, c'est vraiment... C'est le sac du tuto couture. Non, mais le sac à coudre soi-même. C'est un peu l'incontournable à coudre soi-même.
Oui, et je ne le savais pas à l'époque. Mais en fait, le sac Georges, il est né parce que comme je t'ai dit, j'étais enceinte, j'avais besoin d'un sac pratique. Et je voulais un sac qui soit assez grand, qui ressemble un peu à un sac allongé, mais sans être moche.
Ok.
Et ce que je trouvais dans le commerce ne me plaisait pas. Et puis, je voulais un sac qui me ressemble, en fait. Voilà, pratique, où je puisse mettre à la fois des projets de couture, de tricot, de crochet, des bouquins, des couches de ma fille, des lingettes. Voilà. Et puis, en fait, j'ai commencé à dessiner le sac idéal. Et petit à petit, je suis arrivée à ce modèle-là. Et puis, j'ai fait la poche de devant. En fait, j'ai pensé à mon grand-père qui, lui, m'avait appris. Alors, il faisait plein de choses avec ses mains, mais il m'emmenait à la pêche. Il m'emmenait à la pêche un week-end sur deux, parce que comme mes parents étaient divorcés, je le voyais un week-end sur deux. Et mon grand-père, c'était quelqu'un de très bricoleur et qui était orphelin au départ et qui a construit sa vie, mais qui a construit aussi tout ce qui l'entourait. Et j'admirais cet homme. Et sur sa salopette de pêcheur, la poche, elle était cousue comme je l'ai cousue sur le devant du sac Georges. C'est-à-dire qu'on voit la fermeture extérieure, elle n'est pas prise dans du tissu en haut. Elle est volontairement visible. Elle est, je dis toujours, on voit le bord de la fermeture sur le haut du sac. Alors, quelquefois, on me dit, mais t'as fait une erreur, il faut la piquer dans l'autre sens. Et je dis non, en fait, voilà. C'est un hommage à mon grand-père.
Oh, j'avais jamais fait gaffe.
Et mon grand-père s'appelait Georges. Et sa salopette de pêcheur était comme ça, là où il mettait ses petits hameçons devant sur son torse. Et elle était cousue bord franc comme ça. Et j'ai voulu, en fait, la faire comme ça. Et j'ai appelé ce sac le sac Georges parce que voilà, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui nous marquent dans la vie. Et cet homme-là, pour moi, ça a été... un peu comme un dieu, voilà, c'est tout. Et il m'a toujours, de rien, il a réussi à construire une vie, une famille, et toujours avec ses mains et ce courage. Voilà, c'était un homme qui était fort, qui était... Et quand j'ai créé ce sac, il était déjà décédé d'Alzheimer, hein. Et j'étais un peu en souffrance, c'est vrai, mais surtout, je voulais appeler ce sac Georges, et je me suis dit, alors là, avec un prénom pareil, c'est sûr que je vais être vouée à l'échec, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible, parce que les gens, ils vont trouver que ce prénom est moche, que c'est un vieux prénom. Et du coup, j'ai rigolé et j'ai dit, je vais déconner avec le Georges Clooney aussi, et le What Else. Et voilà, j'ai subtilement essayé de jouer un peu sur les deux tableaux, mais la vraie histoire, c'est que... voilà, c'est le sac...
C'est en hommage à ton grand-père.
Ouais, et c'est vraiment le sac dont je suis le plus fière. Je pense que c'est pas le hasard si c'est ce sac qui m'a fait connaître, c'est un coup de pouce de voilà. Et c'est vraiment ouais, j'en suis fière. Ça va avec les valeurs qu'il avait. Il est à un prix abordable aussi parce que ça va aussi avec les valeurs qu'il avait. Et voilà. Et surtout, il est très très détaillé parce que je suis très étonnée, mais il y a beaucoup de débutantes qui font le sac Georges. Et donc moi, quand j'ai débuté, j'aurais été incapable de le faire. Mais il s'avère que, visiblement, les explications que j'ai posées sur papier sont claires et que même les débutantes y arrivent. Donc, maintenant, je vois des sacs Georges qui voyagent, qui prennent l'avion, qui sont dans des maternités, qui vont dans d'autres pays. Et c'est vraiment ouais, je dirais que c'est la réussite de ma vie, hormis mes enfants, bien entendu, hein. Mais ouais, j'en suis très, 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 très fière. Voilà.
J'allais te demander justement d'où venait le prénom Georges pour le sac. Je pensais aussi que c'était par rapport à Georges Clooney. Je me suis dit, bon, elle a pris le plus beau gosse du cinéma actuel. Mais ok, non, mais très bonne. Pourquoi tu pensais que Georges, ça n'allait pas marcher?
Mais parce que j'ai toujours douté de moi sur beaucoup de choses et je me suis toujours sentie pas légitime. Et en plus, comme c'était le prénom de mon grand-père, je me suis dit, c'est pas un prénom moderne pour un sac, c'est pas ça claque pas. Enfin, je m'étais dit, j'imaginais, tu vois, moi, pour moi, Georges, c'était le prénom d'une personne âgée. Et oui. Voilà, je me suis dit, je pense que le prénom va pas plaire, mais ça me tenait à cœur. Et donc, Philippe m'a dit, mais si, fais-le, fonce, vas-y, fais-toi confiance. Et donc, j'ai bien fait de l'appeler Georges parce que voilà, je. Mais oui, au départ, je ne pensais pas.
Tu as une estimation du nombre de sacs Georges qui tournent dans le monde? Combien ont été cousus?
Alors, combien ont été cousus? C'est difficile à dire parce que souvent, elles achètent un patron et elles en cousent plusieurs. Et parce que c'est un peu addictif. Mm-hmm. Et parce que surtout, on peut l'offrir à des gens à faire plaisir et que les couturières, elles sont en principe très généreuses. Combien ont été cousus? Je ne pourrais pas te dire. Combien j'ai vendu de patrons? C'est vertigineux parce que même moi j'arrive pas à le croire en fait et j'ai arrêté de compter pour être très honnête hein, j'ai arrêté de compter il y a 2 ans et grâce à mes curistes qui m'a fait un point et à ce que moi je savais je vais te le dire de façon très humble hein, parce que j'étais à 60 000 patrons vendus il y a 3 ans voilà
et incroyable
donc alors oui c'est complètement incroyable. Alors après, 60 000 fois 3 euros, tu calcules, ça fait beaucoup d'argent. Il faut aussi se dire que ça a été une idée sur plein d'années. Hein.
tant que ce soit une histoire d'argent, c'est un chiffre hallucinant, quoi.
Oui, alors...
C'est-à-dire qu'il y a au moins 60 000 personnes qui se sont dit « je vais le coudre » et rien que ce chiffre... Et c'est juste en français, en plus, tu ne l'as pas proposé dans d'autres langues pour le moment.
Non, j'ai essayé en anglais, mais malheureusement, je n'ai pas les compétences pour traduire correctement. Donc, j'aurais souhaité, mais non. Donc, en fait, oui, juste en France, enfin, pas que en France, attention, j'ai beaucoup de langues qui sont au Canada aussi, et donc voilà. Mais en tout cas, pour tous les francophones, oui, voilà, juste pour les francophones, j'en ai vendu cette quantité-là.
Cette quantité-là, il y a 3 ans ?
Oui, il y a 3 ans, ouais. Et ça reste mon numéro 1 sur mon site aujourd'hui. C'est-à-dire que je m'étais dit, la mode va passer et ça va s'arrêter. Et ça reste ma vente numéro 1 aujourd'hui.
Est-ce que
les
c'est
mois.
Dit Hermès aussi, hein, avec le sac Kelly ?
Oui,
ça fait 60 piges que ça dure. Hein.
Je ne me comparerai pas à Hermès, mais en fait, tu sais, je fais un album sur Facebook où je mets les créations de mes clientes et je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup parce que l'album était rempli à un moment donné. Ils m'ont obligé à faire un deuxième album. Donc,
Facebook te dit, bon, là, il y en a trop, il faut faire autre chose.
Voilà, ouais. Donc, ouais, c'est incroyable, en fait. C'est juste que j'ai du mal. En fait, un jour, Philippe m'a dit, parce que, en fait, je suis originaire d'une ville qui s'appelle Montluçon, dans l'Allier. Je suis arrivée à Bordeaux il y a une dizaine d'années. Et un jour, Philippe m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu as vendu le même nombre de sacs, enfin de patrons, qu'il y a d'habitants à Montluçon? Et voilà. Et là, je me suis dit, bah, écoute, oui, comme ça, je me rends compte, mais je ne réalise pas. Je ne réalise pas. Après,
tant que tu ne les as pas devant les yeux, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. C'est un chiffre un peu improbable.
Bah, voilà, j'ai toujours eu du mal à quantifier les choses en plus. Et voilà. Après, c'est clair que j'en vois beaucoup par hasard dans la rue, par hasard sur des salons, par hasard chez le médecin. J'en vois. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup et de plus en plus, puisque j'ai la chance d'en voir dans la vie normale. Donc... voilà, ce sera ma plus belle fierté. Et oui, j'ai été connue grâce à ça. Et c'est une très belle histoire pour moi. C'est vraiment ouais, je pense que... Et j'en reviens toujours pas de la quantité. J'en reviens toujours pas que j'en vende encore. Et de toutes les combinaisons qu'elles font, de tout ce qui est... Je pensais pas que ce serait un sac mixte, un sac pour enfants, un sac de maternité. Tu vois, ça a été vraiment... finalement...
Un sac de voyage.
Oui, un... Et puis elle
un
a
sac droit... à main.
Elle le rétrécisse, elle l'agrandisse, j'ai l'impression, tu vois, d'avoir donné une impulsion et que derrière, elles se le sont appropriées. Et c'est ça qui est fantastique en couture. C'est, tu vois, tu donnes cette impulsion, cette envie, et après, elles volent de leurs propres ailes. Et ça, c'est un truc, mais quand j'y pense, vraiment, je suis fière de moi pour ça. Ça m'aide à avoir de l'estime pour moi-même, de savoir que j'ai semé une petite graine dans plusieurs petites maisons, tu vois. Ça, c'est ma récompense, quoi.
Incroyable. J'aurais pas cru que c'était ces chiffres-là, tu vois.
Bah oui. J'en parle.
Félicitations,
pas.
C'est fou. C'est
en
fou.
Fait, t'es le premier à me poser la question et j'en parle pas ouvertement parce que je veux pas me vanter très clairement de ça. Mais oui, c'est. Mais, fou. C'est
d'où tu te vantes, enfin, tu vois, c'est un fait, en fait. C'est pour rien. Enfin, toi, t'as fait le travail pour que ça marche. Oui, et derrière, effectivement, je pense que l'engouement, tu ne peux pas spécialement le générer ou l'attiser, mais voilà, le fait est que c'est un best-seller et que aujourd'hui, moi aussi, je vois passer des sacs Georges partout et c'est incroyable, quoi.
Ouais, bah écoute.
Même voilà. Si j'ai moins l'œil, c'est-à-dire si je croise quelqu'un dans la rue qui a un sac, je ne suis pas sûr de reconnaître spécifiquement le sac Georges, mais je vois en tout cas sur les groupes. Sur mon groupe, il y en a tous les jours, je pense, des gens qui postent leur sac Georges. Sur ta page aussi, quand tu republies justement les trucs, je me dis, mais il y en a combien, quoi ? À chaque fois, tu postes par 20 en plus. Donc, il y en a tout un tas qui apparaît d'un coup. Je suis, wow ! Et ça, c'est hyper impressionnant, quoi.
Oui, c'est impressionnant. Et justement, je veux dire à tous les gens qui cousent comme ça et qui postent leur création, parce que je sais qu'il y en a plein qui ne le font pas aussi, mais sachez que... toutes ces photos que je vois passer, ça me réchauffe le cœur à un point et ça me donne confiance en moi. Voilà, c'est vraiment important pour moi.
Est-ce que tu veux bien, Vini, nous parler de ta journée type, s'il y en a une, ou une semaine type ? Comment tu t'organises pour faire ce que tu fais au jour le jour ?
Alors, je vais te répondre avec toute franchise, parce que je suis franche.
J'ai pas de journée type, tout simplement parce que je suis quelqu'un de désorganisé. Je suis quelqu'un qui est très créatif et qui a besoin de faire les choses avec envie et pas avec obligation. Donc, je t'avoue que quand il s'agit de l'administratif, je le fais au dernier moment, à la dernière, au dernier moment. Ma journée type, je dirais que je consulte mes réseaux sociaux. Je vois si j'ai eu des petits commentaires et si je dois répondre à des gens. Je consulte mes mails. Bon, je dirais que ça, c'est dans les premières heures du matin. Ensuite, il va y avoir des périodes où je suis en mode rédaction de patron, où là, bah, ça va être des journées plus ordinateur, tri de photos, mise en page, contact avec les testeuses. Il y a des périodes où je suis en phase de couture et prise de vue. Et il n'y a pas vraiment de journée type, mais on va dire qu'il y a des périodes du mois où je vais être plus dans l'atelier en train de coudre, à fond, parce que j'aime bien aller vite, coudre et prendre des photos, quelques petites vidéos. Après, je passe en mode rédaction de tutoriel, où là, bah, je suis plus devant l'ordinateur. Après, il y a la phase où on lance, entre guillemets, le patron, et où là, je vois ce que je corrige avec les testeuses, je vois ce qu'elles ont fait, je me dis voilà ce qu'il faut améliorer ou pas. Et puis, en temps normal, il y a la période aussi, une fois par mois ou tous les deux mois, où je vais en salon, donc je m'absente quelques jours, et où là, c'est mode valise, atelier, préparation des ateliers, et puis ben, 3 à 4 jours d'immersion dans le salon avec je débranche ma vie de tous les jours et je profite des gens. Voilà. Après, une journée type, en fait, j'ai du mal à respecter des cadres et à rester dans un cadre précis. Donc, je ne m'impose pas des routines particulières, comme je ne m'impose pas de poster à telle heure, tel jour. Je ne m'impose pas que tous les jeudis, il y ait un article de blog. J'ai besoin de ma liberté. Parce qu'en fait, quand je me mets trop de freins ou trop de contraintes, je perds ma créativité. Et je sais que ce n'est pas très bien de ne pas être organisée, mais sinon, je perds ma créativité, mon intuition, mon envie d'avancer. Donc, en fait, je me laisse guider. Je me fixe certaines contraintes, mais des deadlines du genre, bah, tiens, à telle date, ce serait bien que j'ai fini le patron pour idée à faire. À telle date, ce serait bien qu'on puisse sortir la robe avec Mademoiselle Malabar. Mais par exemple, si moi, j'ai un sac dans la tête et que je veux le sortir, jamais je me fixe de deadline. Parce qu'en fait, quand c'est que pour moi, je n'y arrive pas. Je fais quand j'ai envie. Et je ne fais jamais rien, bien entendu. Mais je ne peux pas conseiller quelqu'un sur l'organisation parce qu'en fait, peut-être qu'aussi à l'âge que j'ai, après avoir beaucoup travaillé dans des enseignes très rigides, j'ai besoin de vivre, de m'écouter et de vivre et de faire les choses en fonction de mes envies, de ne pas me forcer. Donc, je ne vais pas tout faire comme c'est indiqué par certains coachs Insta, Facebook, ou voilà. En fait, je fais avec mon rythme à moi.
Mais c'est rigolo parce que j'ai l'impression, d'après ce que tu me dis, que tu cloisonnes quand même un peu que tu fonctionnes par phase. C'est-à-dire tu vas vraiment avoir une phase à l'atelier, une phase ensuite à l'ordinateur, enfin devant un ordi, et peut-être une troisième. Moi, j'ai plutôt tendance à un peu tout mélanger.
D'accord.
Je vais le matin tourner mon tuto, l'après-midi le monter, et du coup, j'ai pas vraiment. Alors, par contre, moi, toutes les semaines, je fais les mêmes choses. Et j'ai des rendez-vous très précis. Le vendredi, il faut qu'il y ait une vidéo. Le dimanche, il y a un article. Enfin, c'est très.
Tu sais que je t'admire. Parce que je suis.
Il faut pas. Hein. Vraiment pas.
J'aimerais être comme ça, je te jure. J'aimerais. Mais je n'y arrive pas. C'est impossible.
Et c'est peut-être le côté télé hein, qui fait ça. C'est-à-dire, j'ai un rendez-vous en fait, avec mon audience et le vendredi, il faut qu'il y ait une vidéo. Ou alors, il faut que je sois dans mon lit en train d'agoniser. Tu vois, il faut une excuse pour qu'il n'y ait pas de vidéo.
Mais c'est ce qui me manque, un peu de rigueur et un petit peu de... Peut-être c'est ce qui me manque, ou peut-être pas. Parce que
tu batches ou quoi tu fais tout d'un coup dans un lieu.
Ouais.
Et une fois que c'est fini, tu fais la suite dans l'autre lieu. Tout avance comme ça, quoi. Jamais tu reviens en... Tu peux revenir en arrière ?
Alors,
te rends compte en cours de tuto qu'il manque un truc, que c'est pas tout à fait correct, que...
Alors, ça m'arrive pas, parce qu'avec le temps, j'ai appris à tout décomposer. C'est-à-dire qu'avant même de commencer ma couture, je sais exactement quelles étapes dans ma tête, je sais exactement quelles sont les étapes. Et tant que j'ai pas... Si j'ai un sac en tête, par exemple, et que je l'ai dessiné, je ne commencerai jamais à coudre tant que j'ai pas séquencé dans ma tête toutes les étapes, que ce soit la nuit, le soir en m'endormant.
Pas d'impro.
Et quand j'ai ça, là, je commence à filmer et à coudre. Et ça me prend plus d'une journée parce que c'est souvent là, je te parle de gros patrons payants. En revanche, si je fais un tuto d'une trousse et que c'est une vidéo, oui, je vais aller coudre le matin, faire le montage l'après-midi et oui, publier le soir si je suis prête. Je ne vais pas pouvoir attendre le vendredi. Hein. Si je suis prête, je suis prête. Hein. Je suis impatiente de partager. Hein. Mais moi, je suis impatiente en fait. Donc, on va dire que si je fais des petites séquences juste pour animer les réseaux, je tourne le matin, je monte direct dans la foulée. Mais si je suis sur un patron où il y a une semaine de boulot, je vais faire toute la couture, toutes les photos, parce que j'ai déjà au préalable dans ma tête, voire sur papier s'il faut, s'il y a trop d'étapes, je séquence bien tout à l'avance. Donc, il y a des phases dans le mois, peut-être, mais je n'arrive pas à avoir un rythme dans la semaine et à me tenir à le rendez-vous de tel jour ou même dire poster à 18h tel jour. Enfin, c'est qu'en fait, ça freine ma créativité. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Et j'aimerais être... ma fille qui est sur les réseaux sociaux, elle, c'est comme une horloge. Et elle est très organisée. Et je l'admire pour ça. Mais ça ne me correspond pas. Donc, je ne vais pas me forcer à publier un jour où je n'ai pas envie, par exemple, ou à dire des choses, à chercher des choses à dire si je n'ai rien envie de dire. Parce que ce jour-là, je n'ai pas l'inspiration. Non, donc je fais vraiment...
Au feeling.
Ouais.
À l'envie.
Et ce n'est pas ce que je conseille, attention. Mais c'est comme ça.
Non, mais c'est ta manière de faire. Et ça fonctionne en tout cas.
Oui, ça fonctionne pour moi, quoi. Alors après, bon, bah, sachant que dans cette journée-là, il y a aussi les contraintes, entre guillemets, familiales. Hein, l'école, les enfants, que tu connais très bien. Voilà, la journée, ce n'est pas que, que ma vie de
d'entrepreneur.
Voilà, hein. Donc voilà. Mais voilà, écoute, aujourd'hui, je trouve mon équilibre.
Parfait. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu préfères en couture ?
Les accessoires, les sacs. J'adore les fermetures. J'avais ça avant, mais maintenant que je sais le faire et que je maîtrise la pose de fermeture éclair, en fait, ça m'éclate. Donc, le moment que je préfère, ça va être de retourner le sac à l'endroit. Ce que je préfère...
Le découvrir.
Ce que je préfère, c'est aussi cette satisfaction que tu ressens quand tu as fini, de te dire, mais c'est moi qui ai fait ça. Et tout ce que je préfère, c'est coudre, prendre les photos. Mais ce que je préfère, c'est la pédagogie et le partage. Parce qu'en fait, je fais tout ça pourquoi ? Pas pour moi. Parce que en fait, si je cousais uniquement pour moi, peut-être que je ne coudrais pas autant. Et j'ai cette envie de partager qui est, je pense, ce besoin d'être pédagogue et d'apporter aux autres qui est vraiment... C'est plus que nécessaire chez moi, en fait. Je dois me sentir utile. Je dois savoir que j'apporte aux autres quelque chose. C'est ma raison de vivre. Je ne peux pas expliquer pourquoi je suis née comme ça, hein, mais on a tous des qualités. J'ai ce besoin de transmettre, d'apprendre à l'autre, qui est du partage, et surtout que ça fasse boule de neige, en fait, parce que j'aime quand les gens qui ont appris avec moi apprennent à d'autres, mais me dépassent, deviennent merveilleux, deviennent encore plus doués que moi, font des finitions incroyables.
Proposent des choses différentes auxquelles tu n'avais pas pensé.
Ah, mais carrément, et les voir évoluer, voir des mamans coudre avec leur enfant, un sac Georges, par exemple, mais tu me remplis ma journée de bonheur et je me dis, mais mission accomplie, quoi. Je me dis, mais ça y est, j'ai laissé un petit truc. Et ça, je vis pour ça, j'ai l'impression que je vis pour ça. Au-delà de la couture, je vis vraiment pour voir les gens réussir, en fait. C'est un besoin, c'est maladif peut-être, hein, mais j'ai besoin de savoir ça. Ouais.
Et alors, à contrario, qu'est-ce qui te déplaît le plus en couture ?
Alors, ce qui va me déplaire en couture, c'est de faire des ourlets de pantalon, changer des fermetures éclairs, mettre des boutons. En fait, c'est, tu sais, quand les gens, ils savent que tu couds et qu'ils te disent « Ah, ça ne te dérangerait pas, j'ai besoin d'un ourlet. Ça ne te dérangerait pas, là, tu vois, ça tombe mal. » En fait, j'ai horreur des retouches, on va dire. En fait, j'aime pas j'aime pas faire ça parce que en fait, pour moi, j'exprime pas ma créativité. Donc, mais alors, je crois que les ourlets, c'est ce que je déteste le plus. Voilà.
Ok, donc les petits trucs de réparation, surtout des autres, en fait.
Oui, mais même pour moi, attends. Hein. Et tu sais que des fois, je le dis pas, hein, mais il m'arrive des fois, il y a des salons où je vais, où mon jean, il est juste agrafé avec quelques agrafes discrètes. Hein. Tu sais, tu mets les agrafes dans l'autre sens. Tu sais, tu tournes les agrafes dans l'autre sens.
Et non, je ne fais plus ça. Moi, j'ai fait ça avant de faire de la couture.
Bah ouais, mais moi, j'aime tellement pas faire ça que même quand c'est à faire pour moi, j'ai pas envie. Quand c'est pour mon chéri, je le fais. Quand c'est pour Philippe, je le fais. Quand c'est pour ma maman, je le fais. Mais franchement, quand c'est pour moi, non, j'ai honte. Mais c'est pas grave.
Les gens, maintenant, quand ils vont te croiser en salon, ils vont observer tes ourlets et tout. Ils vont te juger, quoi.
Mais c'est pas grave.
Ok, Vini, le sac Georges, franchement, super. Mais alors, les ourlets, waouh. Après, est-ce qu'on ne dit pas les cordonniers sont les plus mal chaussés ?
Si. Attends, je n'ai pas de rideau à la maison.
à cause des ourlets.
Bah, parce qu'en fait, je n'ai pas envie de faire des rideaux. Donc, je n'ai pas de rideau chez moi. Voilà.
Oui, mais pourtant, on a tous des stores maintenant.
Non, mais je n'ai même pas de store, j'ai rien. J'ai un volet roulant. Et après, quand tu ouvres la fenêtre, il y a la fenêtre. Mais je n'ai pas de rideau. Parce que je j'ai pas envie de faire pour moi, j'ai pas envie de faire un truc banal. Ouais, voilà, je sais pas comment expliquer. Hein. C'est bizarre.
Chacun ses phobies, peut-être. Peut-être que t'en as beaucoup fait quand tu étais plus jeune aussi, non ? Il n'y a pas une histoire comme ça de trucs qui remontent à l'enfance, qui t'ont un peu...
Oui, alors faut dire que c'est vrai qu'au début, même pas quand j'étais plus jeune, mais au début, par exemple, tu vois, genre, ma sœur s'installe, ma mère... Oui, j'ai fait beaucoup de rideaux. Tu as raison, je ne me rappelais pas. Mais en fait, au début, où je cousais les gens, ils me faisaient faire quoi pour chez eux ? Les rideaux. Tu as raison. Donc, je n'en ai pas fait pour chez moi. Voilà.
Ah là là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des difficultés que tu rencontres ? Est-ce que tu as des échecs, des choses que tu rates ? Que ce soit en couture, je veux dire, pour toi ou dans ta vie pro ?
Alors, mon côté désorganisé, j'en suis pas fière, je dois dire. Mais les choses où... Alors, c'est pas des échecs, c'est, tu sais, des choses où je me sens pas assez performante. Comme le montage vidéo, comme... Ouais, en fait, c'est vraiment tout ce qui touche à l'image, la mise en scène et le montage vidéo. Je pense que j'ai d'énormes progrès à faire. J'essaye, mais j'ai pas assez de temps pour me former sur tout. Et en fait, je vois bien avec la qualité de, notamment de tes vidéos à toi, hein, et puis la qualité de certains réels sur Instagram où là, tu vois les. Je manque un peu de ouais ça je trouve que je suis pas à la hauteur au niveau vidéo et je le vis un peu comme un échec parce que je me dis purée faudrait que j'arrive à aller au bout des choses et que la vidéo elle soit parfaite et que il y ait des chapitres et que il y ait des petits effets qui arrivent et que y ait... ouais écoute c'est un axe de progrès et c'est bien d'en avoir. Donc, moi, je garde ça comme un axe de progrès. Après, en échec, qu'est-ce que j'ai comme échec ? Aujourd'hui, mes échecs sont plus dans ma vie perso, en termes de santé plutôt, et énergie, qu'en termes de travail. Mais ma santé me met en échec dans le travail. Ouais. Je vais plutôt dire ça et que je suis frustrée de ne plus être aussi productive qu'avant. Parce que je suis dans un corps qui ne me correspond pas et qui m'handicape un peu. Voilà, c'est une facette qui fait partie de moi et que je ne cache pas sur les réseaux parce que je vais bientôt me faire opérer d'un bypass. Mmh. Parce que tout simplement, j'ai des apnées du sommeil qui m'handicapent depuis plusieurs années et qui me rendent très fatiguée au quotidien. Et c'est de pire en pire. J'ai un surpoids qui est lié aussi à tout ça, qui m'handicape aussi. J'ai une fibromyalgie. Donc, j'ai des choses qui me freinent aujourd'hui et je veux arrêter ce cercle vicieux. Et ça fait 2-3 ans que je réfléchis à cette opération. Et là, où je me fais opérer le 9 novembre. Et Vini va renaître. Je vous le dis. Vini va retrouver de l'énergie. Vini va se réveiller le matin en forme. Je vais tout faire pour m'en sortir. parce que aujourd'hui je me reconnais plus et j'ai plus assez de force pour vivre correctement et m'amuser avec mes enfants ou ma famille. Et donc je passe par là. C'est un moment important de ma vie. Et pourquoi ma communauté est au courant ? Parce que j'ai décidé d'être depuis le début de tout partager. Et puis parce que je me dis que mon expérience, elle peut toujours servir à quelqu'un d'autre qui se sent comme moi emprisonné, sans solution, alors qu'en fait, il y en a une. Alors, c'est une solution très contraignante avec beaucoup de conséquences derrière, mais qui, j'espère, va me libérer et me faire revivre. Voilà, donc je suis dans un échec physique et corporel, on va dire. J'essaie que ça ne se sente pas sur mes projets de couture, mais il est clair que j'ai beaucoup diminué en productivité couture, en gratuit notamment. Il y a plein de gratuits que je voudrais faire et que je ne fais pas parce que je n'ai plus l'énergie et que ce qui me prenait autrefois une demi-heure va me prendre deux heures aujourd'hui et que quelquefois, je suis très, très fatiguée avec des douleurs partout. Voilà. L'échec du moment, c'est ça. Mais la couture, c'est mon échappatoire et c'est en aucun cas, j'ai pas d'échec en couture. Et il faut pas que j'en aie parce qu'alors, ce coup-ci, ce serait le tableau. Non. L'échec du moment, c'est ça. Voilà, c'est plus personnel.
D'accord. Je m'attendais à beaucoup de choses. Je m'attendais pas à aller sur un terrain aussi perso, mais c'est incroyable, c'est cool. Je savais pas que tu le partageais non plus sur les réseaux. Mais effectivement, j'imagine beaucoup de gens qui sont. Un peu dans cette situation également, qui ne savent pas trop quoi faire, et d'avoir quelqu'un qui passe devant en quelque sorte pour te montrer un peu le chemin, c'est cool. Bon, alors là, toi, tu n'as du coup pas vraiment d'exemple, puisque c'est toi qui montres le chemin, mais c'est incroyable.
Après, tu sais pourquoi j'en parle ? Parce qu'aussi sur les salons, je me suis rendu compte que beaucoup de gens s'étaient mis à la couture ou faisaient de la couture à un moment de leur vie où ils avaient souffert. Et tu sais, alors, la créativité, c'est un refuge pour la maladie, pour la douleur. La créativité, c'est un refuge dans lequel tu te sens bien. Alors là, c'est la couture en l'occurrence, puisque je vois beaucoup de gens qui cousent. Mais c'est incroyable le nombre de personnes que je croise et qui me disent « Je m'en suis sortie grâce à la couture. J'ai survécu à ça grâce à la couture. » Et puis, je me suis dit « Mais ça fait partie de moi. » ce qui se passe en ce moment dans mon corps et les contraintes que j'ai. Et j'ai toujours tout partagé avec ma communauté. Et je me suis dit, peu importe ce que les gens pensent, j'ai envie de le dire et ça va me faire du bien, donc je le dis. Et je ne réfléchis pas. C'est-à-dire que je n'anticipe pas la suite. Peu importe, je dis les choses. Voilà, on verra. On verra où ça mène. On verra... peu importe le jugement des gens, j'ai besoin d'être vraie. Je vais pas dire tout le temps et jouer la fille heureuse, tout va bien tout le temps. Je veux dire, à un moment donné, je suis un être humain comme tout le monde. Et si j'ai un problème, je le dis. Voilà. Et j'ai reçu énormément de messages bienveillants. Je pensais pas que j'avais une communauté aussi bienveillante. C'est un truc de dingue. Et je pensais pas qu'il y avait autant de gens concernés par ce qui m'arrive. Je ne pensais pas ne pas être seule. Et au final, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui ont les mêmes problèmes que moi, plein de personnes qui se sont déjà fait opérer et qui revivent aujourd'hui. Enfin voilà, ça a été vraiment... c'est une expérience humaine incroyable que je vis grâce à la couture. Ouais.
Alors du coup, quels sont tes projets pour l'avenir ? Comment tu te vois ? Où tu te vois peut-être dans 5 ans, par exemple ?
Eh ben,
on a compris que tu avais une grosse étape enfin, grosse étape, c'est peut-être pas le mot, mais une étape importante au mois de novembre, début novembre. Du coup, tu vas d'ailleurs nous tenir informé de tout ça ou tu peut-être
si, je sais pas. Ouais. Je vais partager. Je pense que je vais partager sur un peu plus sur Instagram qui s'y prête un peu plus, notamment en story. Ouais. Mais je vais partager tout simplement. Il y aura des partages sur la couture et il y aura aussi mon arrivée à l'hôpital, comment ça se passe, pour aussi montrer aux gens ce que c'est, en fait. Voilà, je vais partager là-dessus parce que je pense que c'est important et que je n'ai rien à cacher après tout. Et puis les gens vont voir que je vais maigrir, hein, puisque okay, cette opération va me faire perdre beaucoup de poids en peu de temps. Donc voilà, je vais partager, ouais. Et dans 5 ans, je dirais que...
Ouais, qu'est-ce que tu prévois, en fait, pour l'avenir ?
Oh, tu sais, je voudrais juste me réveiller en forme le matin, être énergique, pouvoir faire autant de salons que je voudrais, aller rencontrer des gens. Je voudrais avoir des patrons qui plaisent. Je voudrais être plus performante sur YouTube. Je voudrais toujours avoir cette vie-là, tu sais, parce que je suis tellement heureuse et reconnaissante. J'aimerais un jour, tu sais, passer à un stade au-dessus. Pourquoi pas, si un jour il y a une minute tuto à la télé, intervenir juste pour le fun et pour vivre cette expérience et puis pour partager en plus grand. J'aimerais un jour écrire un livre, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui parce que ça demande beaucoup de temps et de se retirer des réseaux sociaux pendant 9 mois pour créer un livre ou d'être là à moitié, c'est pas mon... Voilà, donc j'ai sorti un hors-série avec le magazine Idée à faire et ça a déjà été une énorme fierté pour moi et c'est une trace que je laisse. Voilà, donc j'aimerais faire un livre, peut-être avec Mademoiselle Malabar, pour ne pas le faire toute seule et puis pour qu'on soit deux. J'ai besoin de travailler en équipe aussi, c'est important. J'aimerais vivre de nouvelles expériences, en fait. Tu vois, toujours autour de la couture, du partage et de la pédagogie. Mais avant tout, je veux rester, enfin, je veux continuer d'être comme ça. Le pire pour moi, ce serait de disparaître des réseaux, de disparaître du cœur des gens. En fait, l'échec, ce serait ça. Ce serait vraiment de disparaître. J'ai besoin d'eux. Voilà. Et j'ai besoin que ça continue comme ça. Je n'ai pas des rêves de folie. Je suis très heureuse aujourd'hui du chemin accompli. Voilà. Je suis ouverte à toutes les expériences pour partager encore plus, certes. Mais voilà, je ne sais pas quoi dire parce qu'en fait, je veux juste continuer comme ça.
Non, c'est super. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer en couture et faire comme toi ?
Alors, il y a un conseil important. En fait, il faut bien comprendre que toutes les grandes choses, et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Van Gogh, mais ça va très bien à la couture. Toutes les grandes choses sont faites de petites choses mises bout à bout. Et ça, ça résonne en moi parce qu'il y a le côté pédagogique, mais ça doit résonner dans... En fait, toutes les couturières ou couturiers qui veulent se lancer, il ne faut pas sauter d'étape. Il faut prendre le temps, il faut du courage, parce qu'il faut du courage pour accepter de se tromper quelquefois. Alors, il faut être courageux, il faut faire étape par étape, il faut suivre le pas à pas, si on en a un, ou peut-être qu'on est créatif et que c'est intuitif, et là, il faut se laisser libre et faire ses propres erreurs et corriger après. Mais quand on se lance en couture, en tout cas, il faut choisir un projet adapté à son niveau. C'est pour ça que je conseille toujours une housse de coussin, un tote bag. Il faut vraiment commencer par quelque chose de simple parce qu'il est important que le premier projet, on en tire une satisfaction, une fierté, pour avoir envie d'ensuite de continuer. Mais pour toutes les couturières de tous les jours, sachez que plus on décompose en étapes simples, quelque chose de compliqué devient simple. Et c'est pour ça qu'on fait des tutos. C'est qu'à un moment donné, nous, notre travail, quand on fait des tutos, c'est juste de vous décomposer quelque chose qui semble être compliqué en petites étapes simples qui s'enchaînent facilement. Voilà.
Et j'ai envie de dire, ça marche pour tous les trucs de la vie. Hein.
En plus.
De décomposer les trucs qui paraissent infranchissables en toutes petites étapes pour réussir à et surtout les faire étape par étape au fur et à mesure. C'est vrai que tu arrives un peu à ce que tu veux en faisant comme ça.
Voilà, je pense.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, sur lequel tu aimerais revenir ou on a fait un peu le tour ? On n'a pas parlé de ta collaboration avec Idée à faire, Idée à coudre.
Voilà, donc je vais parler en fait des gens que j'ai rencontrés grâce à la couture et ça a été merveilleux. Donc en fait, j'ai fait grâce à la couture de très très belles rencontres. Donc il y a Idée à faire, bien entendu, derrière qui se cache Perrine et Karine, qui sont deux personnes importantes et aujourd'hui des amis. Il y a plein de gens que je rencontre sur des créatrices de contenu. Hein. Alors Malabar, je l'ai rencontrée comme ça, Mademoiselle Malabar, qui est aujourd'hui vraiment une amie, grâce à la couture. Quoi. Je veux dire, j'ai rencontré Zach, qui est aujourd'hui, on ne se voit pas souvent, mais c'est très fort aussi nos liens. Zach de Zachadie, enfin voilà. Donc aujourd'hui, on se rencontre tous les deux et je sais qu'il restera des traces de cette rencontre. Et je rencontre, voilà, j'ai rencontré Gaëlle Hensioux, j'ai rencontré, je sais que je vais en oublier plein, parce que en fait, il y a tellement de gens merveilleux que j'ai rencontrés grâce à la couture et qui m'ont apporté ou qui m'ont juste donné l'envie aussi de me dépasser. C'est un côté humain incroyable, en fait. Donc, je ne veux pas tous les citer pour ne pas en oublier, mais voilà. Aujourd'hui, ma binôme, c'est Mademoiselle Malabar, et qui est hyper importante dans ma vie parce qu'elle connaît aussi ma vie perso. Voilà, mais des gens comme Zach, Made in Estelle, Gaëlle Hensioux, des gens qui font du tricot, Hello Kim, Barbara, je peux pas te dire, mais à chaque salon, Diello, elle fait des tutos, pas de Fimo, tout ça. En fait, je rencontre des gens merveilleux dans ce métier. C'est incroyable, je rencontre des gens comme moi, alors que dans la vie de tous les jours, c'est pas évident de les rencontrer, ces gens-là, parce que y en a pas tant que ça. Des gens qui font le même métier ou qui ont les mêmes projets de vie, tu vois. Donc, oui, heureusement qu'ils ont été là et qu'ils sont là. Et je pense qu'on est tous, à part quelques exceptions, mais je veux dire, on est tous bienveillants les uns envers les autres. Et je pense que c'est un métier où on a envie de s'entraider, de se filer des coups de main. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très important aussi.
On est tous dans la même galère.
Alors en ce moment, c'est
plutôt, pas... qui est plutôt cool, parfois.
qui est plutôt très cool, même si oui, il y a des hauts et des bas, bien entendu, puisqu'on sait tous qu'en ce moment, on traverse une période économique qui n'est pas facile, mais justement, couser, ou créer. Et je dis souvent, créer, c'est vivre deux fois. Si ta vie, elle est moyenne, et va créer, quoi. Va créer un truc, offre-le, fais, tu vois, c'est... Oui, on est tous... Voilà, le but, c'est quoi ? C'est de faire vibrer, de faire rêver les gens, de leur montrer qu'ils sont capables de réussir et de refaire vivre le fait main. Et ouais, c'est de partager, qu'il y ait une transmission entre les générations. Et on est là, nous, pour ça, pour aider à ça, en tout cas. Donc, je trouve qu'on a un métier formidable.
Merci beaucoup, Vinnie.
Merci à toi. J'espère qu'un jour, je pourrai t'interviewer, peut-être sur ton podcast à toi. Mais ce serait bien que les gens écoutent tout ce que tu as à nous dire. Je te lance cette perche si tu as envie un jour. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ce serait bien que ce soit sur ta chaîne, mais que peut-être tu répondes à des questions, parce que je pense qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes chez toi à découvrir.
L'interrogatoire.
Et puis un bonjour tout particulier à ta famille, parce que je sais que la famille soutient énormément. Et c'est primordial d'avoir une famille qui nous soutient dans ce métier-là. Voilà. Et merci de m'avoir ouvert ton micro. Et puis à très bientôt, j'espère.
Couturière, couturier, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, peut-être que vous connaissez déjà la rengaine, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, une note 5 étoiles dans votre application de podcast. Je sais que c'est hyper galère, personnellement je ne le fais même pas, mais voilà, ça aide évidemment à faire découvrir le podcast par la suite à d'autres personnes qui s'intéresseraient à la couture. Si vous pouvez, c'est très cool, sinon franchement je ne vous en tiens pas rigueur. Début 2023, j'avais commencé ce podcast avec cet objectif de sortir un épisode par semaine. Je vais essayer de récupérer ce rythme et de vous proposer comme ça chaque semaine, chaque samedi matin à 7h, un nouvel épisode. C'est pas forcément évident, c'est une nouvelle routine à prendre pour moi. Mais en tout cas, je fais mon possible parce que c'est vraiment un format que j'adore. Moi, j'écoute des podcasts en faisant de la couture. C'est pour ça que j'aimerais ajouter ma petite pierre à l'édifice. Et puis surtout, ça me permet de discuter avec des gens qui font un peu la même chose que moi, qui ont les mêmes passions. Et ça, c'est quand même hyper cool. Moi, je vous dis donc, j'espère, à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.